décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques. Semaine 21, salut Manu.
Salut Nolwenn.
Salut Nico.
Salut Luc.
Bien, qu'a-t-on au sommaire ?
On a une jolie revue de presse avec une grosse actualité dont on parlera à la fin, mais qu'on va quand même aborder dans les articles.
Développé.com. La Pologne dépose une plainte devant le plus haut tribunal de l'UE par Stéphane Le Calme.
Et ils se plaignent de quoi ? Ils se plaignent du fait qu'avec les nouvelles directives sur le droit d'auteur, qui ont été validées par le Parlement européen il y a peu, malheureusement, et qu'avec ces nouvelles organisations, il va y avoir de la censure au nom du droit d'auteur, ce que les législateurs avaient garanti qu'il n'arriverait jamais. Mais là, la Pologne anticipe et se plaint déjà de cela, de censure au nom du droit d'auteur, et on est assez content que ça aille jusqu'aux plus hautes institutions.
Les Polonais ont peur que les législateurs se soient trompés ?
C'est possible.
Les Échos, logiciel libre, GitHub étoffe sa communauté et ses services par Ninon Renaud.
GitHub, c'est une plateforme qui fait beaucoup de logiciels libres et qui a été rachetée pour beaucoup de dollars par Microsoft l'année dernière. Donc c'est un petit peu perturbant parce que Microsoft, ce sont les rois du logiciel privateur et que GitHub, bien qu'ils hébergent du logiciel libre, ils soient faits en logiciel privateur.
Ce sont des champions de l'open source maintenant.
C'est vrai qu'ils se déclarent comme des champions et là pour le coup, c'est un petit peu ce qui se passe et qu'ils sont en train de mettre en avant toute une campagne en faveur du logiciel libre avec de l'argent qui est mis sur la table et plein de projets qui vont être lancés pour essayer de favoriser les développements.
CNews. Affaire Google Huawei, les utilisateurs français doivent-ils s'inquiéter ? Par la rédaction.
On s'inquiète tous et il y a eu un nombre d'articles sur le sujet qui est phénoménal et on va en parler juste après.
Clubic.com. Notre-Dame, quand le partage de données aide à la restauration, par Garance Cherubini.
Et alors, à nouveau Microsoft, ça a fait hurler un des membres de l'April qui a vu dans les discussions sur la revue de presse qu'on parlait autant de Microsoft. Mais oui, ils essayent de travailler avec un site web et une entreprise ou une organisation qui s'appelle Iconem. Ils veulent rassembler une base de données sur Notre-Dame pour essayer de faciliter, d'aider à la reconstruction en se basant notamment sur plein de photos faites par les touristes dans le monde entier depuis des années.
Ils sont un peu en train de copier ce que fait Wikimedia, non ?
D'une certaine manière, il y a de ça.
Capital.fr. Élection européenne, le numérique est loin d'être une priorité, par Thomas Romanacci.
Bon, ça parle de ce qui s'est passé ce week-end. Et du point de vue des partis, eh bien, le logiciel libre peut être important. Ça dépend, il y a différentes réactions. On ne s'en rend pas forcément compte de l'utilité ou de l'importance du logiciel libre au niveau des institutions et des États. Mais il y en a d'autres qui peuvent mettre en avant un petit peu ces points-là et défendre des approches qui nous plaisent bien. C'est un article qui est toujours intéressant. En plus, c'est capital.fr, donc capital, c'est un truc d'économie. C'est assez rigolo de les voir tremper leurs idées dans ce domaine-là.
Mais d'un autre côté, peut-être qu'ils sont en train de voir que le libre peut aussi être une nouvelle forme d'économie.
Il y a de ça, mais largement, et que c'est très libéral.
Le monde informatique. L'ANSSI dévoile en open hardware un disque dur chiffrant les données, par Bastien Lyon.
L'ANSSI, c'est une institution française qui fait beaucoup de sécurité, qui sont plutôt intéressants en général, ils ont des gens très pointus. Et donc là, les voir faire donc, du matériel libre, c'est assez original. Un disque dur qui chiffre les données, c'est plutôt bien sur le papier, mais c'est quand même bizarre qu'une institution française fasse ça. Donc je sais pas trop ce que ça peut donner. Nicolas, toi, tu connais un petit peu l'ANSSI notamment ?
Bah oui, je connais bien l'ANSSI, puis ils ont besoin d'avoir des mécanismes de protection des données, et les logiciels et les matériels qu'ils peuvent avoir dans le commerce, ils savent pas ce qui tombe dessus. Donc là, c'est l'occasion pour eux de reprendre le contrôle de ça et de fournir à leurs personnes sous couverture ou autre, des outils fiables qu'ils maîtrisent.
Clubic.com, Google souhaite créer une initiative open source pour la conception de puces électroniques, par Mathieu Grumiot.
Donc là aussi, du matériel libre, plus bas niveau, c'est pour les puces, donc ce qui constitue le cœur, l'intelligence de nos ordinateurs. C'est intéressant, bien que ce soit une grosse multinationale qui se lance dessus, et une multinationale qui est prise dans pas mal de sujets en ce moment.
Développé.com, école de la confiance, le Sénat refuse de débattre sur la priorité au logiciel libre, par Michael Guillou.
Alors c'est un sujet phare en ce moment de l'April, parce que mettre dans les lois et dans les règlements la priorité du logiciel libre, c'est intéressant. Pour les étudiants notamment, mais malheureusement, c'est retoqué, c'est pas le sujet.
Le sujet du jour, c'est celui qu'on avait évoqué la semaine dernière, qui est l'énorme sujet. Manu, tu as eu une terre à chier d'articles sur le sujet.
Ah oui, j'ai dû couper en cours de route parce que sinon, j'étais submergé. Je crois que c'est la première fois qu'il y a autant d'articles qui parlent d'une certaine manière de logiciel libre.
Indirectement, oui. En tout cas en termes de liberté informatique et dans les sujets qui nous intéressent au sens large, c'est un élément très important. Donc c'est Huawei qui est un constructeur chinois de téléphones notamment, mais pas que le téléphone, ils font des ordinateurs et des routeurs, des trucs comme ça pour l'infrastructure réseau, qui viennent de se faire bannir en quelque sorte par Google et plein d'autres entreprises américaines à la demande du gouvernement qui a dit « Oh, ce matériel chinois, c'est rien que des trucs pour nous espionner, donc on va couper les ponts avec eux. »
Du coup, ça donne des trucs bizarres parce que du coup, Huawei se retrouve sans avoir le droit d'utiliser certains services de Google, en particulier sur leur téléphone Android, et toutes les applications du marché quasiment utilisent ces fameux services-là et ils se retrouvent à devoir livrer des coquilles vides aujourd'hui. Tout ça parce que Trump a décidé qu'il fallait reprendre contrôle au niveau national de tout ce qu'ils font et donc dégager tous les constructeurs potentiellement étrangers.
On a toujours dit, et Manu aime bien le répéter, que Android c'est du logiciel libre puisqu'il y a un noyau Linux dedans et que c'est du logiciel libre et donc blablabla. Et donc du coup, où est le problème? Si c'est du libre, il devait pas être bloqué.
Le problème c'est qu'effectivement il y a AOSP qui est Android Open Source Project qui est la base libre d'Android qui est utilisée par Google dans leur propre version d'Android. Sauf que Google a implémenté les Google Services qui sont en fait des surcouches à cette couche libre.
Et qui servent à quoi?
Et qui servent en fait à fournir des services de plus haut niveau. En fait, on a des couches très basses qui parlent plutôt avec le matériel au niveau de AOSP. Et donc Google a remis des couches de haut niveau qui permettent de gérer la géolocalisation, le contrôle du réseau, l'affichage de cartes, toute la gestion du navigateur, etc. dans leur couche à eux, qui est Google Services, et qui sont utilisés par les applications. Quand on veut, par exemple, afficher une carte sur une application, soit on va avec la couche très basse où je vais demander au GPS où est-ce que je suis, etc., et je vais devoir ouvrir ma page web sur mon image, soit j'utilise le service tout fait de Google qui dit « Vas-y, ouvre l'image à tel endroit » et ça va tout marcher tout seul.
Ça inclut aussi le magasin d'applications, et qui est un enjeu phénoménal, parce que c'est sur le magasin d'applications qu'il y a la distribution et le paiement qui est fait et qui passe par les infrastructures de Google, qui est hautement privateur propriétaire. Et cet accès-là, il va être bloqué assez rapidement. Alors, ça faisait partie justement des choses qui sont arrivées plus tard, c'est que Google a annoncé que oui, ils allaient suivre le blacklisting, donc la mise en liste noire de Huawei, mais qu'ils ne le feraient pas tout de suite, parce qu'ils n'avaient pas les moyens techniques de bloquer du jour au lendemain. Donc il y a eu une extension de temps qui a été fournie à Huawei et à d'autres entreprises. Là, on est un petit peu dans un flou.
Alors, il n'y a pas que Google qui leur coupe les ponts. Il y a notamment Intel, qui est le producteur de puces, et également les puces ARM, qui sont les puces de téléphone portable. Et donc là-dessus, c'est assez important. Donc il faut savoir que la construction des puces informatiques, c'est extrêmement compliqué. Et il semblerait que les technologies les plus pointues ne sont pas installées en Chine continentale. Il y en a notamment à Taïwan. Et on peut supposer que ça fasse partie des enjeux. Il y a Microsoft également qui a coupé les ponts. En gros, toutes les grosses boîtes de l'informatique ont dit on bannit ces gens-là. Donc ça démontre qu'il y a un pouvoir énorme de cette informatique, même si elle s'appuie sur du libre, comme Google et d'autres. Et le jour où ils disent on coupe le robinet, ils sont coincés, quoi.
Mais surtout, c'est lié essentiellement à la centralisation entre USA et Chine, parce que tant les Chinois sont très forts sur la partie matérielle, fabrication, toutes les usines de fabrication au silicium, en fait, sont là-bas. Et côté logiciel, on a tous les États-Unis...
Pas les plus pointus.
Pas les plus pointus, mais en tout cas, ce que vous achetez au quotidien en matériel électronique, les barrettes de RAM, les disques durs, les CPU, ça vient de Chine. Les États-Unis vous filent le logiciel, et si un des deux décide de couper le robinet, ils ont tout pouvoir et personne n'ira rien leur dire. Si c'est une petite boîte qui fait ça, tout le monde va dire on s'en fout, on va vous chinter, on trouvera un moyen. Là, on se retrouve avec une boîte qui contrôle 80% du marché, qui dit stop. Et là, on n'a pas le choix, quoi. On fait ce qu'ils disent et on n'a pas d'alternative.
Alors, il y a des alternatives qui ont été annoncées par Huawei. Donc, c'est du logiciel libre, et tous les articles en parlent, c'est que ils vont continuer à récupérer ce code et le mettre à jour. Les téléphones qui ont déjà Android Huawei, qui ont déjà été vendus, ne vont pas bouger. Il n'y aura plus les mises à jour de sécurité qui vont être aussi rapides. Et Huawei a déclaré, oui, ça fait déjà quelques années qu'on travaille sur notre propre système d'exploitation.
Pas qu'elles ne seront pas rapides, c'est qu'elles ne seront pas là du tout.
Non, les mises à jour de sécurité seront là, parce que le code libre, il va être publié. C'est juste qu'ils ne l'auront pas en avance de fait.
Mais celle des
Par contre, celle des applications et celle du Google Services, eux, ne seront pas mises à jour.
Bien sûr, là, je vous parle du système d'exploitation. Ouais. Et ils sont en train de travailler, d'après eux, sur cette alternative. Alors, je crois que c'est Tizen, notamment, avec Samsung. C'est quelque chose qu'ils ont sous le coude depuis déjà longtemps. Ils devaient bien sentir qu'il fallait être un petit peu indépendant d'une grosse multinationale américaine. Mais ce n'est pas prêt. L'alternative que Huawei va mettre en place, ça va peut-être prendre quelques années.
Et puis surtout, la problématique, c'est la compatibilité. Même s'ils sortaient une version libre avec un téléphone libre, les applications du Google Store, vous pouvez pas les installer parce que ça ne fonctionne pas. Donc il faudra qu'ils réimplémentent les applications équivalentes. Alors quand c'est des applications du quotidien où on peut faire une alternative, par exemple pour la cartographie, vous avez OpenStreetMap plutôt que Google Maps. Par contre, sur une application bancaire, vous imaginez bien que votre banque va certainement pas aller développer autant d'applications qu'il y a de versions d'Android.
Alors il y a une alternative qu'on connaît tous, c'est F-Droid pour le magasin d'applications.
Oui, mais dans laquelle l'exemple de Nicolas ne fonctionne pas. Il n'y a pas ton application de banque.
Il n'y a pas le banque, il n'y a pas Intégré, il n'y a pas Navigo.
Il n'y a pas la Sécu, il n'y a rien. Il y a rien. Il y a plein de trucs, mais...
Mais pas les services officiels.
Voilà. Ce qui pose une question d'ailleurs. Pourquoi notamment des applis financées sur des deniers publics pour des services publics sont uniquement accessibles au travers d'un service commercial commercial qui exploite les données des gens, etc., ça pose un tas de soucis.
Bah, parce que c'est beaucoup plus simple de développer à partir d'un truc déjà existant, rodé.
Je comprends bien ça. C'est juste que d'un point de vue d'indépendance, c'est quand même un peu bizarre de te dire que pour accéder à ton service public, tu dois vendre tes données à Google. Mais c'est une autre problématique.
Parce que, c'est une autre problématique, oui et non, parce que là, c'est les Chinois qu'on a interdits, mais demain, ça pourrait peut-être être les Français. Et si on se retrouve avec, vous n'avez plus le droit au Google Play, en fait, vous avez été méchant, vous n'avez plus le droit. Il y a plein de boîtes qui ferment parce que toutes leurs applications mobiles sont dispo que par là. Tous les utilisateurs sont complètement perdus. Aujourd'hui, on est content quand c'est les Chinois, quand ça sera nous, on pleurera certainement beaucoup plus.
C'est des enjeux considérables. Il y a eu un résultat et une conséquence économique directe la semaine dernière. Le prix à la revente des téléphones Huawei a chuté drastiquement.
Donc là, il y a un coup à faire. C'est-à-dire que soit on considère que c'est un gros coup de pression de négociation de la part des Américains pour faire obtenir quelque chose et que du coup, les téléphones Huawei reviendront dans la course. Alors et dans ce cas-là, on peut faire des bonnes affaires.
Ça, c'est l'art de la négociation de Trump.
Voilà. Garry Kasparov, donc le mec qui joue aux échecs, plutôt bien, paraît-il, et qui a fait de la politique en Russie, et qui travaille aujourd'hui pour une compagnie d'antivirus, a, dans cette mouvance, affirmé qu'il y avait aujourd'hui une guerre froide, une cyberguerre, parce que les militaires aiment bien utiliser le mot cyber, qui date des années 90, pour parler de tout ce nouveau domaine de la guerre. Et il a affirmé donc la semaine dernière qu'il y avait une cyberguerre froide en cours, et que, il y avait des sales coups, des machins, etc., et qu'il fallait pas le négliger. Donc les Chinois et Huawei, donc, a été monté notamment par un ancien militaire, un type qui est a priori assez proche du pouvoir chinois, puis on se doute que toutes les entreprises chinoises rendent des comptes. On sait que la NSA s'est beaucoup appuyée sur les entreprises américaines pour espionner le monde entier. On se doute que le gouvernement chinois doit pas être en reste et il serait assez peu probable qu'il s'abstienne d'utiliser la position des entreprises chinoises pour lui-même espionner le monde entier. Donc ces accusations sont peut-être vraies.
Oui, rappelons que Trump et tout le système militaire et politique américain se bat contre Huawei parce qu'ils ne veulent pas notamment que Huawei installe la 5G, la cinquième génération de téléphones portables. Et c'est des infrastructures assez complexes. Et une fois qu'on les a mis en place, on est au cœur du réseau et ils refusent catégoriquement que même leurs alliés mettre en place des équipements Huawei.
Oui, rien que les routeurs chinois étaient interdits aux États-Unis de longue date, il y a déjà 10 ans, c'était le cas.
C'est vrai que sur les téléphones mobiles, on a déjà le problème avec les puces baseband. C'est Qualcomm ou Snapdragon qui ne sont que...
Puces baseband.
C'est la puce qui fait la communication avec les antennes, en fait. Et elles sont fondues en Chine. C'est Qualcomm et Broadcom qui font ça. Et puis, on a du matériel qui vient de Chine, qu'on envoie dans nos téléphones avec une grosse couche US par-dessus, des grosses boîtes noires que personne ne comprend comment ça marche. Et effectivement, ils se retrouvent, les États-Unis commencent à flipper en se disant, on a ces puces là qui viennent de Chine, on est incapable de dire ce qui fonctionne dedans, parce que même leurs plus grands experts sont pas capables d'auditer tellement c'est compliqué. Donc potentiellement, il y a de la surveillance,
c'est réellement microscopique. Un processeur, il y a combien aujourd'hui dans un gros processeur d'ordinateur, il y a combien de transistors, je sais plus.
4-5 millions de transistors par millimètre carré.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça se compte en milliards aujourd'hui sur un transistor. Donc c'est absolument minuscule. Donc savoir comment c'est effectivement construit, a posteriori, c'est extrêmement difficile, voire impossible. Sur cette question de la cyberguerre, c'est un sujet intéressant, me semble parce que je pense que ça va prendre de plus en plus ampleur. Donc, dans l'article qui parlait de Kasparov, il parlait par exemple de l'invasion des Russes en Ukraine, en disant que préalablement à leur invasion, ils avaient mené des cyberattaques en faisant tomber des tas de trucs, des tas de services, des tas de choses qui s'étaient mises à mal marcher, ce qui aurait coûté, je crois, 10 milliards de dollars à l'économie, et avaient désorganisé le pays, ce qui aurait permis, eux, de prendre leur position, commencer à faire leur machin. Il y a assez récemment, en Palestine, des gens qui auraient mener une cyberattaque contre Israël. Et Israël a une méthode simple contre les hackers, c'est de leur envoyer un missile sur la gueule, à eux et les voisins. Donc on imagine les dommages collatéraux. Donc c'est effectivement un vrai enjeu et c'est devenu vraiment quelque chose qui s'est développé. Donc c'est une réalité et ce sera probablement également un prétexte. Et sur toutes nos questions de liberté informatique, numérique, etc. La question de la cyberguerre et de la sécurité et de nos ennemis et ce genre de choses, fantasmées ou réelles, sera très probablement dans les années à venir quelque chose qui va se développer. Donc nous, on va acheter des téléphones Huawei pas chers d'ici à la semaine prochaine.
On va faire du stock, parce qu'à la revente, on peut espérer que Trump change d'avis dans une semaine et que les prix remontent.
Oui, va falloir installer du Lineage OS sur tous nos téléphones.
Ou du réplicante.
Ouais, alors là, bon courage, ça marche encore moins bien.
Donc ça, c'est des alternatives à Android. C'est basé sur du Android, parce que c'est du logiciel libre, mais effectivement, il faut un geek pour l'installer.
Très bien. Bonne semaine à tous.
Salut tout le monde. À la semaine prochaine.
Salut.